lorsque le jeune Jean-Sébastien Bach revint du long voyage qu'il entreprit à la rencontre d'un des maîtres organistes de son temps, Dietrich Buxtehude, c'est toute sa musique qui en fut transformée. On ne connaît pas tous les emprunts que Bach fit aux compositions de Buxtehude. Ce qui est sûr, c'est qu'un tel passage de relais serait aujourd'hui fort difficile. Car les limites entre l'emprunt, la citation, la copie privée et le plagiat ne sont pas les mêmes partout et n'ont pas été les mêmes en tout temps. Et le jeune Bach se serait sans doute vu accusé de nos jours de non-respect des droits d'auteur. Un peu comme si on l'accusait d'avoir téléchargé illégalement la musique de Buxtehude sur Internet.
Le copyright, c'est le droit d'auteur. C'est donc le droit à la propriété intellectuelle. Un auteur qui écrit un livre, n'importe qui ne peut pas copier ce livre, le répandre, le photocopier, etc. Pour un musicien, c'est la même chose. Pour un peintre, pour un sculpteur, pour un scientifique, voilà. Donc ça, c'est un droit important qui est inscrit dans la Convention européenne des droits de l'homme, dans un protocole, le protocole numéro 1 à l'article 1. Et puis, de l'autre côté, il y a la liberté d'information et d'expression.
En effet, si les droits d'auteur avaient été de tout temps appliqués stricto sensu, aucune œuvre, aucun travail scientifique n'aurait vu le jour.
Je m'intéresse à une question, mais je ne suis pas le premier à m'intéresser à cette question. Donc si je veux m'exprimer là-dessus, je dois pouvoir citer librement un certain nombre de gens qui ont travaillé là-dessus. Donc il est inévitable dans tout travail intellectuel ou dans toute expression publique de citer ceci ou ça. Le problème depuis toujours, c'est comment concilier ces deux droits. Dans le domaine des droits de l'homme, nous sommes obligés de traiter les deux ensemble. Et comment est-ce qu'on va traiter le droit d'auteur et la liberté d'expression ensemble en prévoyant dans la législation un certain nombre d'exceptions et de limitations au droit d'auteur. Par exemple, le droit de citation. De même, j'ai le droit de copier, de reproduire pour un usage privé. Pour ce qui est des personnes handicapées, il y a aussi un droit spécial de dérogation au droit d'auteur. Et de même aussi pour les bibliothèques. Il y a là des exceptions et des limitations aux droits d'auteur qui sont prévues depuis longtemps par les traités internationaux.
Mais si les traités internationaux le prévoient pour tous les matériaux analogiques difficilement reproductibles, les livres, les photos, les œuvres d'art, les disques quand ils étaient encore en vinyle, il n'en va pas de même pour les supports numériques, reproductibles à l'infini et diffusables sur Internet. Pourquoi cela n'est-il pas encore résolu ?
Le problème, c'est qu'on a plus développé récemment le droit d'auteur que les exceptions et les limitations, parce que nous sommes dans une Union européenne et que cette Union européenne joue beaucoup sur la libre concurrence. Ce qui l'intéresse, c'est la libre circulation, mais à condition que ça serve les intérêts commerciaux des uns et des autres. En revanche, le Conseil de l'Europe est beaucoup plus tourné, lui, vers la liberté d'information et d'expression, parce que le Conseil de l'Europe est d'abord tourné vers des valeurs. Qui sont des valeurs de culture, des valeurs de partage, des valeurs de solidarité. Donc il faut aujourd'hui transposer ce débat entre le droit d'auteur et les limitations, exceptions au bénéfice de la liberté d'information dans le domaine d'Internet. Et c'est ça qui est actuellement difficile parce que personne ne sait très bien jusqu'où on peut aller ou ne pas aller.
Ce qui pourrait passer pour des arguties juridiques intéresse l'Église à plus d'un titre.
D'abord parce que il y a tout un ensemble d'œuvres dont l'Église est détentrice. Mais un certain nombre d'œuvres sont utilisées par l'Église alors qu'elle ne les possède pas. Mais il y a un deuxième aspect qui me semble beaucoup plus important, c'est l'aspect de l'usage commun. Le Conseil de l'Europe vient de sortir une recommandation, qui est laissée donc à la libre décision des États membres, sur la valeur de service public de l'Internet. Et là, on rejoint rien moins que la doctrine sociale de l'Église. La doctrine sociale de l'Église, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit propriété, oui, bien sûr, mais d'abord, n'oublions pas que tous les biens nous ont été remis par Dieu. Et donc que nous ne sommes jamais propriétaires absolus. Nous sommes au mieux des gestionnaires responsables. Et donc, si je suis gestionnaire responsable, le bien que je possède, dont je suis détenteur, plus exactement, dont Dieu m'a remis la propriété, est-ce que je ne dois pas, moi, le partager avec ceux qui en ont besoin ? Et dans le cas du partage du savoir, dans le cas d'Internet, on voit très bien que le droit d'auteur doit céder le pas au partage. Donc la solidarité doit l'emporter sur le droit de propriété. Ça, c'est une donnée fondamentale de la doctrine sociale de l'Église et ça rejoint tout à fait la position du Concile de l'Europe sur Internet.
Si les intérêts de l'Église coïncident avec ceux des institutions européennes, ne peut-on pas dire, en se faisant l'avocat du diable, que c'est grâce au lobbying qu'elle fait auprès des institutions internationales, tout comme le font les grandes maisons de disques ou les firmes pharmaceutiques?
Il faut distinguer deux choses, le lobbying et l'advocatie. Le lobbying, ça veut dire « je suis un groupe d'intérêts et je fais valoir les intérêts de mon groupe ». L'advocatie, le plaidoyer en français, c'est de dire aux responsables politiques « nous ne nous battons pas pour nos intérêts à nous, mais nous nous battons pour les intérêts de l'ensemble ». Donc, faire du travail sur les droits de l'homme, ce n'est pas du lobbying, c'est de l'advocatie, c'est du plaidoyer. On plaide pour le droit, par exemple, de tous à avoir accès à un certain nombre de biens culturels et intellectuels. Dans le cas qui nous intéressait tout à l'heure, l'Église peut avoir à intervenir en disant « il faut que je puisse utiliser des œuvres musicales dans le cadre d'un service religieux, je ne vais pas payer pour ça ». Ça, c'est du lobbying. Mais il y a aussi tout l'autre aspect, l'aspect du plaidoyer dans lequel l'Église catholique et les églises et les ONG, la société civile, vont dire « mais attention, il y a une valeur de solidarité. Et vous, hommes politiques, cette valeur, elle est en vous aussi. Donc, je plaide pour que vous teniez compte de la solidarité dans les décisions que vous allez prendre ». Et c'est en général ça, la position de l'Église catholique auprès des instances internationales, beaucoup plus que la position de lobbying.
La doctrine sociale de l'Église est donc encore d'actualité face aux nouveaux problèmes qu'affronte aujourd'hui la société.
La doctrine sociale de l'Église, ça serait peut-être ma conclusion personnelle. Il y a de ça, si vous voulez, 25 ans, 30 ans, je vous dirais, oh, la doctrine sociale de l'Église, oui, bien sûr, c'est important, mais c'est de l'acquis. Aujourd'hui, depuis les années 90, avec le développement d'un libéralisme sans frein, le marché, oui, mais le marché sans aucune régulation, non. Je m'aperçois aujourd'hui que cette doctrine sociale de l'Église a retrouvé toute sa pertinence. Et moi, j'encouragerais vivement les catholiques à travailler de beaucoup plus près cette doctrine sociale de l'Église.